Vous écoutez France Culture.
Une vie, une œuvre, les rediffusions d'été, c'est tout de suite. William Faulkner, 1897-1962. Une vie, une œuvre pour ses rediffusions a décidé de jouer au jeu des pères. Père d'amis ou d'amoureux, un compère le samedi et sa moitié le dimanche. Alors aujourd'hui, une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui était écrivain. Sudiste, buveur assoiffé, pessimiste et menteur. William Faulkner. Et demain, son ami d'écriture, de cinéma et de boisson, Dashiell Hammett. Jeune, il a les cheveux bruns et la moustache sombre. Plus vieux, il a les cheveux blancs et toujours cette moustache sombre, fine et bien soignée. Il a l'air impénétrable et distingué, le visage fin, la pipe à la main, on dirait un vieil anglais qui revient de soigner ses rosiers. Il a souvent le sourcil un peu hostile et pose rarement en écrivain. Mais il y a une photo où il est pris de loin, installé sur une terrasse, torse nu, avec des baskets de grandes chaussettes. Il a des lunettes de soleil, toujours sa pipe et il est devant sa machine à écrire. Alors on se demande comment des histoires si implacables et si rudes, si écrasées de soleil et de tragédie, ont pu sortir du cerveau de ce drôle de vacancier. On aimerait déchiffrer cet homme qui ne s'illumine que quand il pose avec un cheval ou un avion. Alors tendons l'oreille pour écouter William Faulkner dans un documentaire de Virginie Bloch-Lenné, réalisé par Clotilde Pivin.
Pierre Bernougneau, la première fois que vous lisez un roman de Faulkner, c'est Sanctuaire.
Oui.
Et vous avez 13 ou 14 ans.
Oui.
C'est par hasard, dans une bibliothèque.
Oui, municipale.
Municipale. Et vous tombez des nues.
Voilà, je suis révolté. Parce que j'habite un département périphérique qui s'appelle la Corrèze, ça existe. Que jamais personne n'a cru devoir dire les choses de cette façon-là. Qu'à l'inverse, les professeurs que nous avons au lycée insistent sur la nécessité de dire les choses de façon claire et distincte, cartésienne. Et je découvre qu'un éditeur de Paris, M. Gallimard en l'occurrence, a imprimé un texte qui est proprement inintelligible. Et pendant une fraction de seconde, je me pose la gravissime question de savoir si je ne vais pas prendre ma plus belle plume pour l'aviser rue Sébastien Botin, de ce qu'il n'a peut-être pas été suffisamment attentif à ce qu'il avait reçu de ce garçon, William Faulkner, et qu'il serait peut-être bien avisé à l'avenir de repousser énergiquement tout ce qui pourrait sortir de sa plume. Voilà quelle est la pensée criminelle, monstrueuse, qui m'a traversé la cervelle en ce temps très, très lointain, mais c'est parce que, à mon insu, j'étais victime de l'arriération de ma région natale, et que je n'avais pas idée que depuis déjà une quarantaine d'années, eh bien, l'espèce pensive, rien de moins, avait réalisé une avancée prodigieuse dans ce registre qu'est celui de l'expression. Voilà, oui.
Quand on aime ça, ensuite on... Et la nouvelle l'ours aussi.
Olivier Seban, quand Sanctuaire a été publié, en 1931...
Il était extrêmement
mal vu. Scandalisé, oui.
Extrêmement mal vu. C'est très mal vu. Puis en plus, comme il parle de lieux connus, et d'un fait... Sanctuaire, c'est un fait divers. C'est quelque chose
vous pouvez rappeler, Olivier Seban, l'histoire, oui.
C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'est fait violer... qui s'est fait enlever et kidnapper par un proxénète et il s'est basé sur ce fait divers là pour
qu'une jeune fille lui a raconté, je crois, à la Nouvelle-Orléans.
Ça je savais pas.
Je crois.
Ça je savais pas.
Un jour une fille lui raconte qu'elle s'est fait violer par un objet bizarre.
Oui, voilà. Ouais.
Alors dans Sanctuaire,
c'est un épi de maïs.
C'est un épi de maïs.
Mais on le voit jamais hein. C'est extrêmement bien fait parce que il faut pas passer à côté.
On l'entend.
On l'entend voilà. On l'entend et ensuite évidemment il y a les séquelles.
Je pense qu'il y a un rapport entre son écriture, cette façon de tordre les choses quand il est décrit.
Mark Weitzman.
Le mélange des niveaux de langage aussi. Il y a un rapport entre la forme et le fond. Tout est tordu. Le rapport aux origines est tordu, le rapport aux êtres est tordu, et la langue est tordue. Et la description du monde qu'il fait est tordu par une espèce de feu violent. Je crois qu'il y a une leçon stylistique, quoi, hein, dans cette écriture. Il transforme un univers qui est très familier pour lui, qui est vraiment le monde qui l'entoure de la manière la plus prosaïque possible. Il la transforme en quelque chose de parfaitement méconnaissable. Il en fait quelque chose d'autre, et à travers cette chose méconnaissable, il la rend à nouveau familière, mais autrement. Il en fait ressortir une espèce d'essence, la vérité du lieu, à travers son étrangeté. S'il y a pour moi une leçon de modernité chez Faulkner, elle est assez là. C'est quelque chose qui manque chez nous. Comment faire du familier quelque chose d'étranger, tordre les choses de cette manière, à travers la langue. Il ne dissimule rien, mais il rend les choses différentes.
Elle a l'air jolie, oui. Elle est toute fine,
oui.
et elle se fait violer par un monstre,
oui.
Avec un épi de maïs. Et en effet, elle est très antipathique, elle est aussi monstrueuse que lui.
Elle est froide, elle est glaciale. Elle ne cherche même pas à s'évader de cette espèce de condition. Elle s'amourache à un moment donné d'un type qui se fout complètement d'elle. Le proxénète qui la viole s'appelle Popeye. Est jaloux, enfin il y a toute une histoire de rivalité entre eux, et Popeye est impuissant, c'est pour ça qu'il la viole avec un épi de maïs. Elle est terrifiante parce qu'elle est glaciale. Mais plus loin dans l'œuvre de Faulkner, elle a une espèce de rédemption. C'est pas forcément des meilleurs, je me rappelle plus du titre du livre, c'est pas forcément un des meilleurs, je me demande si c'est pas dans l'intrus, où on la voit plus tard un peu, il la rachète, quoi, mais. C'est dans Sanctuaire, c'est plus intéressant, de toute façon.
Et dans Sanctuaire, l'événement, donc le viol, n'est jamais vraiment raconté. Ouais. Et en même temps, il est annoncé tout le temps. Il faut être un lecteur très attentif pour. Et puis, il faut ensuite recoller les morceaux pour comprendre ce qui est arrivé.
Ouais. Et au fond, on se demande si c'est bien arrivé. Et on a des traces, au sens vraiment quasiment physique, pendant tout le reste du livre, pendant une partie en tout cas. Des dégâts qu'occasionne le viol. Et
parce qu'elle saigne énormément,
ouais. Elle s'en plaint d'une manière, c'est très étrange, elle s'en plaint mais on n'a pas l'impression que c'est lié au viol, enfin alors on se demande est-ce que ça la détruit ou bien est-ce qu'elle est simplement une jeune écervelée froide. Je crois qu'il a voulu se moquer aussi un peu peut-être de ce qu'on appelle la belle du vieux sud, un peu d'éducation féminine qui aboutit à quelque chose d'un peu froid, quoi. Elle est un peu indifférente à son corps, encore on retrouve cette idée des corps. Mais là, on est vraiment, je trouve, là, ce roman est extrêmement archaïque, très archaïque. Très archaïque parce qu'on est dans à la fois la peur de la femme, il y a l'idée de l'impuissance, la défaite absolue de la condition humaine, tout est là, quoi, vraiment.
C'est ça le grand mystère Faulkner. On ne peut pas rattacher cette virulence, cette violence, ce ton de visionnaire hallucinatoire, ce ton de prophétie douloureuse qui parle du désir et de la furie de ce désir. On ne peut pas le rattacher à quelque scène que ce soit de la vie de Faulkner. Ça vient d'ailleurs et ça va ailleurs. Et c'est ce mystère auquel chaque lecteur est constamment reconduit, à chaque fois qu'il lit une page de Faulkner. Car tout Faulkner est ainsi. Et c'est pour ça que c'est un auteur absolument inimaginable. Mais d'où ça vient? Alors ça vient sans doute de ce qu'il entendait être le rythme de la Bible. Cette fureur, ce hurlement, cette sorte de clameur qui à la fois se heurte au silence des hommes, mais aussi au silence de Dieu. Cette clameur éperdue et désespérée, c'est cela qu'il a perçu. Et c'est cela qui l'a amené à la littérature. En fait, on emploie encore le mot littérature, si vous voulez, mais on est ailleurs. On est bien au-delà de la littérature. On est bien au-delà de la littérature. On est où ? On est dans cette entreprise absolument unique et singulière qui est de découvrir quel est son rythme propre. Alors, cet extrait se trouve au beau milieu du roman, dans Lumière d'août. C'est le plus long, sinon un des plus longs romans écrits par Faulkner. Et il s'agit de la scène qui décrit les amours entre Christmas, qui est ce noir blanc, qui finira très très mal dans le livre, accusé de meurtre, et donc c'est les amours de Christmas et de cette blanche qui tombe amoureuse de lui, qui s'appelle Burden, je crois. Et il y a ce moment tout à fait spectaculaire où Faulkner dit ce que c'est que la violence du désir. On pourrait dire que s'il y a un thème constant, c'est ce thème de la virulence ou de la violence déchaînée du désir. Et ce que le désir peut faire quand il aveugle précisément le sujet de ce désir. Parfois, les notes lui demandaient d'attendre une certaine heure pour venir dans cette maison où, avant lui, aucun blanc n'était entré depuis des années, et où depuis 20 ans elle avait dormi seule toutes les nuits. Pendant une semaine entière, elle le força à grimper par la fenêtre pour venir la retrouver. Il le faisait, et parfois il devait la chercher au noir dans toute la maison. Il finissait par la trouver cachée dans un placard, dans une chambre vide, attendant, haletante, les yeux brillants dans les ténèbres comme des yeux de chat. Parfois, elle lui donnait rendez-vous sous certains arbustes, dans la propriété. Il l'y trouvait alors, nu, ou les vêtements en loque, en proie aux folles tortures de la nymphomanie, et son corps luisait tandis que, lentement, elle faisait des gestes, prenait des poses érotiques que seul un Birdsley du siècle de Pétrone aurait pu dessiner. Encerclée par le clair-obscur palpitant que nul mur ne limitait, elle était déchaînée alors, avec sa chevelure affolée dont chaque mèche semblait vivre, comme les tentacules d'une pieuvre, ses mains éperdues, son souffle haletant, nègre, nègre, nègre. Au bout de 6 mois, elle était complètement pervertie. Il ne pouvait pas dire que c'était lui qui l'avait pervertie, car sa propre vie, avec ses promiscuités anonymes, avait été assez conventionnelle, comme l'est en général toute vie de péché, sain et normaux. En fait, il semblait bien plutôt que c'était elle qui, avec cette corruption qu'elle semblait recueillir dans l'air même, commençait à le pervertir. Il se sentait légèrement effrayé, il n'aurait pas pu dire de quoi, mais il commença à se voir lui-même, de loin pour ainsi dire, sous les traits d'un homme attiré vers un gouffre sans fond. Cependant, il ne pensait point encore exactement cela. Ce qu'il voyait maintenant, c'était la rue solitaire, sauvage et fraîche. C'était cela, fraîche. Et il pensait, il se disait parfois tout haut à lui-même, « Je ferais mieux de partir, je ferais mieux de m'en aller d'ici. » Mais quelque chose le retenait, car un fataliste peut toujours être retenu par curiosité, pessimisme ou simple inertie. Cependant, sa liaison continuait, le submergeant de plus en plus, impérieux sous l'épuisante furie des nuits. Peut-être comprenait-il qu'il ne pouvait pas s'échapper, et il restait, observant les deux créatures en lutte dans un seul corps, luttant, s'enfonçant à tour de rôle sous la surface d'une eau épaisse et noire à la lueur de la dernière lune. Parfois c'était cette forme calme, froide, réservée de la première période qui, bien que perdue et damnée, restait en quelque sorte inaccessible, inexpugnable. D'autres fois, c'était l'autre, la seconde, qui, dans un furieux désir de nier ce caractère inexpugnable, s'efforçait de noyer dans l'abîme noir de sa propre création cette pureté physique conservée trop longtemps pour pouvoir jamais disparaître. Parfois, enlacées comme des sœurs, les deux formes apparaissaient sur la surface noire, les eaux noires alors se retiraient, le monde réapparaissait d'un seul coup, la chambre, les murs, le bruissement paisible des myriades d'insectes derrière les fenêtres d'été où depuis 40 ans des insectes tourbillonnaient. Dans ces moments-là, elle le dévisageait avec le visage fou, désespéré d'une étrangère. Et lui la regardait alors, paraphrasant, Elle voudrait bien prier, mais elle ne sait pas non plus comment faire ça. Bon, alors, c'est un extrait époustouflant. Mmh, mmh. Mais époustouflant parce que, si vous voulez, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce que Faulkner a pu vivre dans sa vie pour réussir à écrire deux pages pareilles?
Someone turn the lights back on. I love you till all time is gone. You haven't looked at me that way in years, but
Et je crois que William Faulkner a été beaucoup plus apprécié par vos traductions françaises que dans son propre pays au moment où il écrivait ses premiers livres.
Oui, je pourrais dire sans exagération qu'il faudra attendre le prix Nobel
Maurice Edgar Coindon
pour que dans son pays, on veuille parler de lui d'une façon qui ne serait pas, je pourrais presque dire, insultante.
Comment avez-vous fait la connaissance de l'œuvre de Faulkner?
Je l'ai fait par pur hasard, grâce à un de mes étudiants. Et lorsque parut Sanctuaire, c'est-à-dire vers 1931, je lus Sanctuaire.
Et vous avez eu la sensation, dès cette première lecture, que vous vous trouviez en présence de celui qui allait devenir effectivement le plus grand écrivain américain.
Je ne savais pas s'il le deviendrait, mais en ce qui me concernait, je le considérais déjà comme l'écrivain américain qui avait écrit la chose la plus sensationnelle et la plus extraordinaire.
Et vous avez eu le désir de le connaître tout de suite et de le traduire?
Non, j'ai eu le désir de savoir s'il avait écrit autre chose. Et alors ce jeune homme m'a dit, mais oui, il a écrit Sartorius, il a écrit Le bruit et la fureur, il a écrit Tandis que j'agonise, et il m'a prêté ses livres. Et c'est alors qu'en 1931, comme j'étais en très bons termes avec Jean-Paul Lang et avec la NRF, j'ai écrit ce petit article qui est apparu dans le numéro du 1er juin pour parler de Faulkner, de cet homme extraordinaire. Et en 1932, j'ai publié dans la NRF un conte de Faulkner, Septembre ardent. Et après, dans Commerce, que dirigeait Valérie Larbaud, j'ai publié Une rose pour Émilie. Puis l'année suivante, j'ai publié Il était une reine. Enfin, je ne m'étais pas encore lancé dans ses romans. À ce moment-là, j'ai fait la connaissance de Faulkner. D'abord, pour publier ses contes, il a fallu que je demande l'autorisation. Et son éditeur, à New York, un jour où il était de passage dans cette ville, m'a demandé de venir déjeuner avec lui. Je m'apprêtais à traduire Tandis que j'agonise. Il a été très aimable, il m'a dit « Si vous avez besoin de renseignements, écrivez-moi. Mettez votre nom sur l'enveloppe afin que je vous réponde, parce que, en général, je ne réponds jamais aux lettres et je ne voudrais pas être discourtois. »
These old balls about to break my back. Oh, boys, can't you line up? Chack-a-lack-a. Oh, boys, can't you line up? Chack-a-lack-a. Oh, boys, can't you line up? Chack-a-lack-a. See, we go line and track.
Olivier Seban, Faulkner est né en 1897. Dans quel genre de famille? C'était quel milieu?
Alors, dans une famille, une espèce d'aristocratie déchue du vieux sud des États-Unis. Avec un passé familial très chargé, notamment un arrière-grand-père qui avait fait la guerre de sécession. Et cet arrière-grand-père qu'on appelait le vieux colonel va hanter toute sa jeunesse et ensuite toute son œuvre va être présente dans toute son œuvre. Et c'est les échos de la guerre de sécession et les échos de cette famille désargentée qui a chuté un petit peu, qui est un peu à l'image du vieux sud et de la défaite du vieux sud face au nord pendant la guerre de sécession, à laquelle il va s'identifier et qui va imprégner toute sa vie.
L'arrière-grand-père, c'était un personnage très romanesque.
Extrêmement romanesque. Ouais.
C'était un héros.
C'est un héros typique américain, c'est-à-dire qui se fait lui-même et qui, en même temps, est un commerçant avisé, enfin qui construit une ligne de chemin de fer, qui est propriétaire de banque et qui est en même temps quelqu'un de très violent. Il y a une histoire de duel à un moment donné, il va descendre un rival. On est presque western, enfin, il y a un héritage comme ça de très très d'aventure. C'est même un écrivain parce qu'il a écrit un roman un peu à l'eau de rose. D'ailleurs, je ne me souviens plus du titre exact.
Il y a rose, oui.
Il y a rose dans le roman. Ça va me revenir, mais
c'est pas une rose pour Émilie.
C'est pas une rose pour Émilie, qui est une superbe nouvelle de Faulkner, mais ouais. Donc oui, ça a vraiment, ça l'a imprégné. Puis c'était quelqu'un d'assez grand, alors que Faulkner était petit. Enfin, il y a toute cette espèce de passé et passif familial qui remonte comme ça. De toute façon, la voix des morts chez Faulkner et chez la plupart des grands écrivains est présente.
Mais il n'est pas né sur une terre complètement vierge, parce que c'est Oxford, Mississippi, ça a une histoire, c'est un endroit particulier des États-Unis.
C'est un trou.
Oui, mais c'est un trou très raciste.
Bien sûr, bien sûr. C'est sans doute le plus arriéré, le plus sauvage des États-Unis d'Amérique. Je pense que l'Arkansas, par exemple, était quelque peu plus développé. La Floride et la Louisiane aussi, non? Les rednecks, comme ils disent, les cous rouges, les nuques brûlées du Mississippi. Et je pense que ceci aussi est d'une importance extrême. Que ce contexte social était bien fait pour lui rendre sensible ce fait que la littérature, lorsqu'elle se nourrit en vase clos, perd tout contact vital, organique, vivifiant, avec ce qu'on pourrait appeler la vie des gens, des humains qui forment notre société, et qu'on s'expose à méconnaître, à trahir en traduisant leurs actes, leurs paroles, leurs buts, leurs vues, leurs efforts, leurs peines, leurs joies. Je pense qu'il était la plus haute importance que celui qui allait en quelque sorte remodeler le texte de l'humanité, enfin du moins de l'humanité occidentale, vive profondément immergé dans une petite communauté rurale, avec en permanence sous les yeux le spectacle de la vie, des gens qui vont et passent et qui sont accaparés par les tâches concrètes qui leur incombent.
Qui que l'on soit et quoi qu'on fasse, et c'est chacun son tour. Alors, le diable les grincheux, il fait bon d'être amoureux.
Et donc, cet écrivain du Sud qui, à un moment donné, laisse surgir cette parole qui était étouffée aux États-Unis par la victoire des nordistes. La victoire des nordistes a mis en quelque sorte sous le boisseau quelque chose qui est resté, si vous voulez, à l'état de murmure ou de grouillement et qui est le contrepoint au péché puritain. Le contrepoint au péché puritain. Faulkner, en quelque sorte, a un ennemi, c'est lui-même. Il est son principal ennemi.
Le puritanisme qu'il
Et ce puritanisme qu'il transporte en lui et qu'il a assimilé, s'il est devenu écrivain, c'est précisément pour s'en prendre à lui. En s'en prenant à ce puritanisme, Faulkner s'en prend à lui-même, évidemment, à personne d'autre qu'à lui-même. Et le combat qu'il mène et qui donne forme à sa littérature est un combat qui est entièrement porté par cet enjeu. Alors, il y a cette voix du Sud qui vient brouiller le quadrillage ou la police des mœurs imposées par le surmoi puritain. Et là, tout craque, tout craque. Et c'est parce que tout craque que la temporalité des romans est aussi complexe. Lumière d'août, par exemple, qui normalement se passe sur un espace d'une semaine, je crois, introduit à l'intérieur de la narration une temporalité qui remonte à plusieurs années, sinon plusieurs générations. Et cet éclatement est une des données de ce combat que Faulkner mène.
Mais il s'en prend à lui-même, hein, Paul le dit. Mais vous pensez qu'il pense quoi de ces personnages et de ce que font ces personnages qui sont souvent des monstres? Il en pense quelque chose, moralement?
Il en pense peut-être moralement quelque chose en tant qu'individu, mais je n'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que ces romans n'en pensent rien moralement. Et c'est déjà énorme. Cette indistinction, si vous voulez, ou cette volonté de ne pas juger de la monstruosité de ces personnages, qui eux-mêmes, finalement, sont pris dans des déterminations qui les dépassent tellement que parfois on a l'impression qu'ils ne sont pas à l'origine de leurs propres actes monstrueux. Non, je crois que Faulkner, si vous voulez, ne considérait pas que la littérature était un tribunal. Il laisse cela au monde, et parce qu'il laisse cela au monde, il creuse un espace de non-jugement à l'intérieur de la parole littéraire. Que au moins la littérature ne soit pas ce tribunal permanent qu'est le reste du monde, et qu'est surtout le monde protestant, la pesanteur du jugement qui structure le monde protestant. Donc c'est en ce sens-là que cette littérature est complètement solidaire du jugement, mais défait en quelque sorte le jugement. Un personnage comme Hightower dans Lumière d'août, qui est une sorte de cœur à l'antique, si vous voulez, à lui tout seul. Il regarde les événements, il les pèse, il les juge, il leur donne une sorte d'épaisseur morale. Mais en même temps, Hightower n'est pas le personnage qui dit le dernier mot. C'est ça qui est aussi intéressant. Le cœur est là pour juger la scène et pour lui donner une sorte de comment dire... pour tirer en quelque sorte la morale de la fable, mais cette morale elle-même n'est jamais le dernier mot d'un roman de Faulkner. Ce qui a le dernier mot, si vous voulez, c'est la cruauté du temps. C'est le temps qui est cruel, c'est pas l'homme qui est cruel. L'homme n'est cruel que parce que c'est d'abord un être temporel et qu'il est soumis à cette finitude d'être voué à la mort. Le temps lui-même est la véritable balance, si vous voulez, celle qui juge les vivants et les morts, et les bons et les méchants.
Que Faulkner frappe un grand coup avec Le bruit et la fureur en 1929. Ouais. Il ne fait pas grand-chose, en fait. Il traîne un peu. Ses frères en font plus que lui. Lui, il traîne un peu. Il va à l'université, mais il n'aime pas trop ça.
Oui, il traîne beaucoup. Il traîne énormément. C'est presque un clochard. C'est la formation d'un écrivain, au fond. C'est un écrivain atypique, comme normalement tous les écrivains, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle. Et lui, il fait sa jeunesse comme ça, c'est-à-dire qu'il ne va pas à l'université, il boit, il se cherche un peu dans le dandysme, un peu dans l'héroïsme.
C'est un grand menteur.
Un affabulateur.
Il a dit qu'il était parti, qu'il s'était engagé, qu'il avait été pilote à la fin de la guerre, donc en 1918. Et il est en effet parti pour le Canada.
Oui.
Pour s'enregistrer comme pilote dans la RAF, mais en fait, il est arrivé trop tard.
Exact, et il a prétendu avoir eu un accident en avion alors qu'il n'avait même pas volé, et il est revenu en boitant et en paradant avec son costume de pilote.
Il disait aussi qu'il avait une plaque de fer dans le crâne.
Oui, il racontait ça à la Nouvelle-Orléans quand il est allé là-bas écrire, commencer à faire ses armes, en fait, aux côtés de Sherwood Anderson, où il a travaillé, mais vraiment comme un dingue, hein. Il travaillait toute la journée, il paraît, alors que les autres allaient au bordel, etc. Il le voyait avec sa petite machine à écrire et commençait des romans qui n'étaient pas forcément très intéressants, mais il fallait délayer la plume. Et puis c'est un autodidacte. Mais malgré tout, si tout le monde le regardait un peu bizarrement, parce qu'il repeignait des maisons, il faisait des petits travaux comme ça.
Il y a plein de petits boulots.
Oui.
Il a été postier. Il y a un biographe français de Faulkner, André Blaikasten, dit que c'est le côté chaplinesque de Faulkner.
Oui,
il a été postier, il a vendu des boissons glacées sur le golfe d'Oxford.
Oui. Il a été aussi libraire à New York. Il s'est essayé à plein de choses, mais pendant ce temps, finalement, il lisait énormément, parce que c'est quand même un très grand lecteur, et c'est un lecteur de très bons romans, notamment de Melville, de Conrad, il aimait beaucoup Balzac, enfin, il a lu ce qu'il fallait lire, finalement. T.S. Eliot, il a commencé par imiter, puis petit à petit, il s'est dégagé de ça, il a créé une œuvre extraordinaire.
Paul le dit, lorsqu'on lit un roman de Faulkner, on a toujours le sentiment qu'on assiste au commencement du monde, à la naissance du monde, enfin, que c'est la Bible et les mythes grecs... ensemble, que le monde est en train de naître sous nos yeux.
Oui, c'est vrai, il y a la dimension... parce qu'il s'agit, au fond, de s'intéresser à la question de l'histoire, mais à la question existentielle de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que l'histoire pour un individu? En quoi elle va façonner son être, son caractère et ses gestes, en quoi elle va déterminer certains de ses actes qui vont se révéler être tragiques, précisément parce que tout est déjà fait, tout est déjà consommé, on pourrait dire. On est à la fois dans la tragédie grecque, c'est vrai, mais on est aussi dans ce temps biblique très particulier, entre une mort déjà accomplie et une résurrection possible, dans ce temps d'incertitude où les êtres existent, ce temps oppressant, mais qui a son propre rythme. On reviendra peut-être plus tard sur cette notion de rythme tellement importante pour Faulkner. Alors évidemment, il s'agit d'une reprise de certains mythes grecs, bien sûr. Par exemple, la castration de Christmas dans Lumière d'août ne peut pas ne pas évoquer une figure oedipienne. Mais c'est la compénétration à la fois de la tradition grecque et de la tradition biblique. En quoi la tragédie peut exister dans un monde biblique qui est le contraire même de la tragédie? Il n'y a pas de tragédie dans la Bible. La Bible est même conçue, tissée, tramée pour rendre le nœud tragique impossible. C'est dans le tissu de la Bible que le nœud tragique n'existe plus. Chez Faulkner, et c'est cette mission qu'il assigne à la littérature, il s'agit de retrouver un nœud tragique ou de le nouer à l'intérieur d'une trame qui ne lui laisse aucune place. Et en ce sens-là, on peut dire que chez Faulkner, il y a ce que Joyce appelait Greek Jew, Jew Greek. C'est cette conjonction du judaïsme et donc du christianisme, évidemment, et de la fatalité grecque. Sorte de destin pris à l'intérieur d'une intrigue qui ne l'accueille pas a priori. Et les êtres, les personnages de Faulkner, qui sont des personnages qui sont imprégnés par la culture biblique, rencontrent dans leur existence la pierre d'achoppement du destin tragique grec. Et ils en sont les premiers surpris. Comment se fait-il que eux soient assujettis à ce destin dont la parole qui les anime et qui les occupe ne veut rien entendre? Alors c'est ça qu'il met dans cet entre-deux un peu hagard. Ils sont surpris d'être le jouet d'actes prémédités, et pour autant ils ont été élevés et portés par une culture de la liberté. Et c'est pour ça que chez Faulkner, finalement, il n'y a pas d'inscription de la liberté dans l'existence, au niveau évidemment de l'histoire des personnages, qui ne rencontre pas la mort. Le prix à payer pour être libre, c'est de buter contre la réalité de la mort. Chez Faulkner, c'est là que la fatalité, si vous voulez, s'inscrit.
Cheveux gris, moustache de même, confortable tweed renforcé au coude par du daim, pipe à la Simenon, tel est William Faulkner, écrivain américain et fermier, mais fermier qui a su intéresser ses serviteurs noirs au profit de sa terre. William Faulkner, nous ne vous avons pas vu à Paris depuis 1950, année de votre prix Nobel de littérature. Quels sont donc les motifs de votre voyage en Europe, les objectifs que vous vous êtes assignés au cours de votre séjour?
J'aime bien la France, son peuple, sa cuisine, ses bons vins. Et je reviens aussi souvent que possible pour les apprécier tous.
Naîtra-t-il de ce séjour en France un nouveau roman?
Non.
Quel sera donc le thème de votre prochain livre?
Je suis un peu comme Don Quichotte. Ces personnages que j'ai inventés se bousculent dans mon imagination. J'écrirai sur l'or quand ils m'y tracassent suffisamment ou quand ils m'amusent suffisamment.
Y a-t-il un roman que vous préférez aux autres?
Oui, c'est celui qui m'a donné le plus de peine, qui a été la meilleure faillite. La Brute et la Fureur.
Gonna take a rope and I believe I hang myself.
Should do that, should do that.
Gonna take a rope and I believe I hang myself.
Should do that, should do that.
Gonna kill my baby, maybe she's got someone else.
Should do that, should do that.
I'm going to...
Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis, ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs.
Faulkner est celui qui a brisé définitivement ce qu'on pourrait appeler la royauté de papier du narrateur. Or, cette figure du narrateur rationnel, elle datait du 8e siècle avant Jésus-Christ, et elle avait un nom, c'était Homère. S'il fallait, c'est une supposition gratuite, ramener à deux noms l'histoire du texte qui accompagne la marche de la civilisation occidentale, ce serait d'un côté, au 8e siècle, donc avant Jésus-Christ, Homère, et ensuite Faulkner. Sachant que Faulkner est inconcevable sans Homère, mais que Homère a négligé par la force des choses dont Faulkner a eu l'intuition fulgurante. Il y a deux mondes tout à fait distincts selon qu'on adopte vis-à-vis des mêmes choses une posture contemplative, ou qu'on est engagé corps et âme dans l'affaire et qu'il y va de notre honneur, de notre salut, de notre vie. Faulkner est celui qui a pris acte de ce que la littérature, jusqu'à lui non compris, était un artefact.
Alors, ce que Faulkner découvre, et dont il donne à mon avis un aperçu très éclairant dans Les Palmiers Sauvages...
Qui s'est ensuite appelé Si je t'oublie, Jérusalem.
Oui, c'est vrai. Dans Les Palmiers Sauvages, où deux récits tout à fait indépendants l'un de l'autre se succèdent, enfin, se alternent à l'intérieur du livre. Dans la nouvelle qui s'appelle Les Palmiers Sauvages, qui raconte une histoire d'amour tragique, Faulkner fait dire à l'un de ses personnages, en italique évidemment, la chose suivante. Je vais vous lire ces quelques mots qui me semblent être capitaux. « Pas le péché, pensa-t-il. Je ne crois pas au péché. Tout se borne à une question de rythme. On est submergé dans un défilé anonyme où tout le monde marche au pas, par les myriades anonymes de son temps et de sa génération. » On perd le rythme une fois, un seul faux pas, et on périt sous les piétinements de la foule. Alors, si vous voulez, ces quelques phrases absolument extraordinaires disent ce dont il s'agit véritablement dans l'existence pour Faulkner. Le péché et le contre-péché, si vous voulez, la force qui vient s'opposer à la totalité ou la totalisation du péché, c'est le rythme. Et au fond, il n'y a pas véritablement de péché. Il y a des ruptures de rythme, il y a des défauts dans la rythmique d'une existence. Il y a des rythmes et des contre-rythmes. Il y a des faux pas, comme il dit. Il y a des manières de trébucher à tel ou tel moment parce qu'on n'est pas en phase avec le rythme qui est plus grand que soi. Il faudrait mettre rythme avec un R majuscule. Parce qu'on est en quelque sorte assujetti à ce rythme fondamental. Les personnages sont surpris. Pourquoi ? Parce qu'ils découvrent ce rythme avec un grand R après coup, au moment où l'acte est commis, où les jeux sont faits, où c'est trop tard. Qu'est-ce qu'ils découvrent ? Ils découvrent qu'il y avait un rythme et qu'ils n'ont pas su être au diapason de ce rythme-là. Et s'il y a une métaphysique chez Faulkner, c'est celle-là. C'est cette métaphysique du rythme de l'existence. Mais ce rythme de l'existence, il est en quelque sorte stratifié, si vous voulez. Il y a plusieurs couches. Et cette profondeur de la rythmique, le fait que le rythme, si vous voulez, donne sur un autre rythme plus vaste ou plus grand, c'est ça la profondeur historique dont on parlait auparavant. Donc, l'homme est pris dans le temps. Ce temps lui-même n'est pas du tout un temps comptable. On ne peut pas le compter, on ne peut pas le comptabiliser. Mais tout ce qu'on peut, c'est comprendre que le souvenir est la seule mesure du rythme. C'est dans le souvenir que le rythme donne véritablement sa mesure. Dans l'action elle-même, le rythme disparaît. Telle est en quelque sorte la phénoménologie de l'action. Elle fait disparaître le rythme, mais elle ne le fait pas voir.
Ce sont toujours des corps en action, les personnages.
Ce sont toujours des corps en action.
Et il y a la pensée par-dessus.
Alors, il y a la pensée par-dessus qui essaye de faire découvrir le rythme qui préside à l'action. Donc, il y a cette voix intérieure qui vient commenter l'acte en train de se faire à chaque fois. Mais il y a en même temps une sorte de disjonction. L'action est une action qui ignore quel est son rythme propre, et la pensée est toujours en train de rattraper ce rythme qui porte l'action dans une ignorance totale de l'existence du rythme. Donc cette sorte de dialectique interne entre l'action et la pensée qui structure chacun des personnages dans sa manière de s'exprimer. Et là, enfin, c'est un dispositif littéraire qui est là pour faire émerger quelque chose qui est de l'ordre de la métaphysique, qui est le rythme. Or, comment faire entendre ce rythme sinon par le ton, par la voix ? Et donc, la polyphonie des voix, tellement présente dans un livre comme Absalon, Absalon, qui est vraiment une sorte d'opéra crépusculaire et feutrée sur une polyphonie spectrale des voix. Eh bien, cette polyphonie spectrale des voix est le seul indice, le seul témoignage de l'existence du rythme. On ne peut laisser le rythme se manifester que par la voix. Et la voix est toujours la voix qui revient sur, qui est revenante elle-même, si vous voulez. C'est une voix elle-même spectrale.
A stick, a stone, it's the end of the road. It's the rest of a stump, it's a little alone. It's a sliver of glass, it is life, it's the sun, it is night, it is death, it's a trap, it's a gun. The oak when it blooms, a fox in the brush, the knot in the wood, the song of the thatch. What a thing, a cliff, a fall, a scratch, a lump. It is nothing at all, it's the wind blowing free. It's the end of the slope, it's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a hope.
the river bank dogs off the waters of March. It's the end of the strain, it's the char in our heart.
The foot, the ground, the flesh and the bone, the beat of the road, the slingshot stone.
A fish, a flash, a silvery glow, a fight, a bet, the range of a bow.
The bed of the well, the end of the line, the dismay in the face, it's a loss, it's a find. Spear, spike, point, a nail, a drip, a drop, the end of the tail. A truckload of bricks in the soft morning light. The sound of a shot in the dead of night. A mile, a must, a thrust, a bump. It's a girl, it's a rhyme, it's a cold, it's the mumps.
Et Paul dit jusqu'au Nobel, Faulkner n'est pas aimé des Américains. Il est assassiné par la presse. Sanctuaire se vend très bien, c'est presque un best-seller. Mais les autres romans, non. Lorsqu'il a le Nobel, dans le New York Times, on peut lire « L'inceste et le viol sont peut-être des distractions communément répandues à Jefferson, Mississippi, mais pas ailleurs. »
Et vous voyez, parce que cette littérature, elle vient redessiner une frontière dans un pays qui avait repoussé très très loin la frontière jusqu'à la faire disparaître. On était arrivé, si vous voulez, en repoussant la frontière jusqu'aux extrémités du territoire à l'ouest, on avait en quelque sorte fait disparaître cette frontière et Faulkner la redessine. Et c'est quelque chose d'absolument insupportable pour une Amérique qui cherche enfin à s'unifier autour d'un modèle unique qu'on va appeler « the American way of life ». Cette sorte d'idéologie uniforme et homogénéisante est complètement prise à partie, si vous voulez, et même déchirée par la littérature de Faulkner. Faulkner redessine une frontière à l'intérieur d'un territoire qui ne voulait plus en entendre parler. Mais cette frontière, en fait, elle n'avait jamais disparu. Et c'est pour ça que Faulkner est Faulkner. C'est qu'il ne redessine pas une frontière à partir de rien. Il redessine la frontière subliminale, certes, mais bien réelle, qui était là et qui découpait ce territoire en deux. Et encore une fois, il n'y a pas meilleure définition de cette séparation que de voir que cette différence, que cette dichotomie que Faulkner a désignée dans Les Palmiers Sauvages entre le rythme et le péché. C'est cette frontière qu'il dessine et qui prend effectivement les allures d'une frontière géographique entre le nord et le sud, mais c'est une frontière qui est à l'intérieur de chaque tête et surtout de chaque tête américaine. Et c'est ça qu'il essaie de dire. Alors, évidemment, quand on fait cela, vous voulez qu'on vous applaudisse, vous voulez qu'on vous célèbre. Vous êtes un véritable scandale vivant, oui. Un scandalone au sens étymologique, c'est-à-dire une sorte de pierre de butée contre laquelle on va trébucher. Alors, il était fatal, évidemment, qu'il se fasse crucifier et qu'on rattache sa littérature à des turpitudes. Du genre inceste.
D'arriéré, quoi. Des turpitudes d'un pays, d'un coin paumé.
Exactement.
Ouais. D'année, ouais.
Alors, il y a aussi, sur le plan biographique, une chose intéressante à ce sujet. C'est que Faulkner a une toute petite expérience hollywoodienne. Bon, alors c'est une expérience désastreuse.
Elle n'est pas vraiment choisie, comme il manquait beaucoup d'argent. Tout le temps d'argent. Il a écrit des scénarios, on lui a demandé, il détestait quitter Oxford. Donc il y a été contraint et forcé, mais il appelait ça mes mines de sel.
Voilà, mes mines de sel. Mais c'est intéressant, parce que cette expérience hollywoodienne, évidemment due à ses nécessités matérielles, recouvre quand même un enjeu intéressant. Hollywood était une fabrique, une fabrique d'images unitaires.
Il commence en 1932, donc oui. C'est l'âge d'or d'Hollywood.
C'est l'âge d'or d'Hollywood. Il arrive au moment où Hollywood impose à la société américaine et bientôt au monde entier une image de l'Amérique qui est une image idéalisée, une image qui n'existe pas, une image qui, à force d'avoir été forgée par la fiction, finira par exister dans les faits. L'Amérique ressemblera à ces films de plus en plus, mais ces films, au départ, ne ressemblent pas à l'Amérique. Et Faulkner arrive à Hollywood et se heurte à ce moi idéal de l'Amérique qui est fabriqué en permanence par Hollywood. Et Hollywood est né d'un traumatisme américain fondamental. C'est la fracture de la guerre de sécession. L'Amérique ne s'est pas remise de cette fracture. Ce pays qui se rêvait unifié a connu la guerre civile et la fracture intérieure. Il a fallu des décennies et l'invention du cinéma pour que l'unité se reforme autour d'un moi idéal. Et c'est ça la grande fonction du cinéma hollywoodien, c'est d'inventer l'Amérique enfin qui ne connaît aucune frontière intérieure. C'est ça l'enjeu. Or, Faulkner arrivé à Hollywood, chargé de sa propre frontière qu'il avait l'intention d'imposer à ce qu'il faisait. Et donc il était fatal que ça se passe très très mal aussi.
Il trébuche hein, une fois.
Évidemment, évidemment. Et c'est à Hollywood que, au fond, Faulkner a véritablement pris la mesure de l'impossibilité pour lui d'imposer sa pensée de l'Amérique à la réalité hallucinée de l'Amérique. Car l'Amérique s'imaginait être quelque chose dans l'ignorance et le refoulement même de ce qu'elle était dans sa réalité. Or, ce refoulement-là, c'est Faulkner qui en a eu la charge.
C'est ça la littérature, ça se transporte n'importe où, ça vient sur n'importe qui, ça peut tomber sur n'importe qui. Et sur Faulkner, on le voit pas, enfin a priori, comme ça, comment on peut penser qu'il est écrivain d'ailleurs? Toute sa vie, il n'a pas eu l'air d'un écrivain. Il a posé un peu après au Gentleman Farmer, etc. Mais il est venu presque quasiment par hasard à la littérature. C'était normal, ça le guettait parce qu'il avait tellement les valises tellement chargées.
Ouais, et puis il avait une vocation très précoce. Enfin, il a dit qu'il... Oui.
Mais il a d'abord voulu être un héros de guerre, il a cherché d'autres biais, comme Balzac au fond. Et Faulkner, c'est ça aussi un petit peu. Voilà. C'est, on peut dire que c'est un écrivain, c'est un raté magnifique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire autre chose qu'écrire. Et puis quand il réussit son œuvre, ça, c'est là où c'est, ça devient splendide. Quoi.
La biographie de Faulkner, Paul le dit, elle ne nous dit rien. Enfin, on voit que c'est un homme très travailleur, qui boit beaucoup.
Boit beaucoup.
Très solitaire.
Il y a aussi les femmes, oui, l'existence des femmes dans sa vie.
Des catastrophes à répétition. Enfin.
Des catastrophes à répétition, comme vous dites si bien. Je crois que cette catastrophe que l'on trouve dans la vie de Faulkner, ou ces catastrophes successives, s'expliquent par ce combat éperdu et presque perdu d'avance, si vous voulez, qu'il a mené contre lui-même. Il a buté contre l'inscription du péché dans sa chair. Et cette inscription qui est fausse, et qu'il savait être fausse, parce qu'il y avait quelque chose d'encore plus vrai, qui était ces ruptures de rythme, cette manière de trébucher. Et même on pourrait, si vous voulez, dans une lecture seconde de la biographie de Faulkner, on pourrait revenir sur son alcoolisme, sur le fait que, qu'est-ce qu'on cherche finalement dans l'alcoolisme? Qu'est-ce qu'on cherche dans cette ivresse permanente? Qu'est-ce que cette ivresse nous entraîne à faire? Elle nous entraîne d'abord à tituber. à trébucher. Et c'est exactement ce qu'il dit de l'existence elle-même. Ce n'est pas un processus de démolition que, comme aurait dit Fitzgerald, c'est un processus où l'on trébuche tout le temps, où l'on loupe une marche, où l'on tombe, on se casse. Et cette marche, elle est très importante. Cette déambulation presque fantomatique dans les couloirs de l'histoire, elle constitue finalement le tableau des personnages de Faulkner. Et c'est là que je voudrais évoquer, si vous voulez, ce passage des palmiers sauvages, où le personnage de Charlotte, qui est sculpteur, et c'est un des seuls, sinon, en tout cas, un des rares, mais je pense ne pas me tromper en disant que c'est un des seuls personnages d'artiste dans les romans de Faulkner, Charlotte dit quelque chose de tout à fait stupéfiant. Elle dit « Moi, lorsque je veux faire une sculpture, je voudrais que cette sculpture, si par mégarde elle tombait sur le sol, elle casse le pied sur lequel elle tombe, au lieu de se casser elle-même. » Eh bien, c'est la véritable poétique de Faulkner. Il s'agit de créer une œuvre qui nous casserait le pied lorsqu'elle nous tomberait dessus, mais qui resterait elle-même intacte, cette œuvre. Et Faulkner a cherché cela. Il a eu du mal à trouver la clé de cette compacité, de cette solidité de l'œuvre. Pendant longtemps, il a erré. Et puis, avec le bruit et la fureur, il l'a enfin trouvé. Et là, il ne l'a plus jamais lâché. Mais entre-temps, ses œuvres nous tombent dessus, comme les sculptures de Charlotte, et elles nous ont cassé plus d'un pied, croyez-moi. Mais elles-mêmes, elles sont restées intactes.
Quand je tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis rien, 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 rien ne vaut la vie. Il a vu manque d'argent comme la vie c'est détergent et comme ça nettoie les gens.
C'était Une vie, une œuvre, William Faulkner.
Il a joué jeux interdits pour des amis.
Une émission de Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin.
Et il a dit...
Avec Paul Audy, philosophe, auteur de Créer, Introduction à l'esthétique, publié aux éditions Verdier. Pierre Bergougnou, romancier, auteur de Jusqu'à Faulkner, publié dans la collection L'un et l'autre chez Gallimard. Et Olivier Seban, romancier, auteur de Le jour de votre nom, publié aux éditions du Seuil. Merci à Marc Weitzmann, romancier et lecteur de Faulkner, auteur de Quand j'étais normal, publié aux éditions Grasset. Prise de son Arthur Gerbeau, Laurent César et Olivier Leroux. Archivina Anne Lorveille. Coordination Anne de Biran. Mixage Claire Levasseur. C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, lien, réécoute, podcast, c'est sur la page de l'émission, sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et demain, l'autre moitié de la paire, l'auteur et scénariste, le détective devenu auteur de romans noirs, l'ami de Faulkner, Dashiell Hammett. Mais dans un instant, c'est le journal, juste avant les passeurs de sciences.